Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours du club privé Innover Malin, dans lequel nous allons voir votre parcours pour innover. Alors vous avez vu dans le cours précédent trois choses. D'une part, les règles qui gouvernent l'évolution des produits, les freins à la créativité pour créer une nouvelle évolution, et enfin, les freins à l'adoption pour un nouveau produit. Et bien maintenant, et en réponse à ces points-là, je vais vous parler des trois défis à relever sur votre parcours d'innovateur. Tout d'abord, savoir créer une nouvelle évolution de votre produit qui soit différente de ce qui existe déjà. Ensuite, viser un résultat à forte chance de succès, qui réponde aux besoins du marché. Et enfin, suivre le chemin le plus simple et le plus direct pour innover. Pour commencer, voyons ensemble comment fonctionne le processus créatif. Alors, c'est un processus que vous connaissez peut-être, mais laissez-moi vous expliquer les points essentiels à bien intégrer. Eh bien, vous avez sans doute déjà vécu une illumination, le fameux Eureka. C'est le moment où l'idée géniale vous vient subitement à l'esprit, par un cheminement d'ailleurs inconscient. À vrai dire, on a tous un moment dans la journée où les idées vous viennent plus facilement. Au petit déjeuner, ou sur le chemin du travail, ou alors au moment où on se couche le soir, ou lors d'un événement particulier, comme par exemple lorsqu'on marche seul en forêt ou sur un salon, en voyant des stands avec des produits exposés par exemple. Et inversement, eh bien, il arrive quelquefois où l'illumination n'arrive tout simplement jamais. En 1926, Graham Wallace, professeur anglais en psychologie, a défini justement ce processus créatif en quatre étapes. La première étape correspond à la préparation. Il faut voir cette première phase, si vous voulez, comme une prise en main du sujet à traiter. En effet, comment pourriez-vous résoudre un problème si vous ne connaissez pas le sujet? C'est le moment où vous immergez dans le monde du problème et vous en prenez conscience. Donc, dans la résolution de problèmes, si vous voulez, la connaissance et l'expérience précèdent toujours l'action. Dans bien des cas, eh bien, votre niveau de connaissance sera suffisant. Mais attention, il ne faut pas vous en satisfaire, car c'est réellement ce qui alimente en permanence votre processus créatif. Dans les faits, à ce moment de la réflexion, on peut dire que vous réfléchissez à une solution, mais vous n'arrivez pas à résoudre le problème. Pour rendre cette étape fertile, il est important de créer autour de vous un environnement favorable à cette réflexion. Vous voyez, être sur le bon territoire, être connecté aux bonnes personnes et être à l'écoute tout simplement. C'est ce qui vous permettra de gagner des concours de circonstances en favorisant l'émergence d'opportunités. Alors il y a une expression que j'aime bien, c'est une citation de Louis Pasteur qui dit « La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés ». Et bien je trouve cette expression vraiment très très juste et elle m'a beaucoup inspiré. L'étape numéro 2, l'incubation. Eh bien, cette deuxième phase peut paraître bien mystérieuse. On y fait souvent référence à propos d'un œuf, pour décrire la période pendant laquelle l'embryon se développe. Eh bien, c'est pareil pour la créativité. Votre idée est en gestation. Vous arrêtez de réfléchir au problème de manière consciente. En revanche, votre cerveau, lui, reste actif. Vos neurones continuent à travailler. Et c'est sans doute l'étape la plus délicate, car votre réflexion peut vagabonder des heures durant, sans aucun résultat. Lorsqu'on comprend le rôle essentiel de cette phase, on comprend aussi l'intérêt de laisser reposer une réflexion et revenir dessus le lendemain. Vous voyez, les choses comme ça vous paraissent souvent plus claires. Et un autre point à considérer est la nécessité d'être bien dans son corps et dans sa tête pour être plus productif. Alors vous voyez, ça passe par le fait de bien dormir, par exemple, pour reposer votre cerveau. Et aussi, il est important d'être actif. D'ailleurs, deux scientifiques de l'université de Stanford ont démontré que le simple fait de marcher améliorait de 60% la créativité divergente. La troisième étape, eh bien, c'est le moment où l'illumination arrive. L'idée jaillit. Vous ne savez pas comment elle est arrivée, mais elle est là. Eh bien, en réalité, votre réflexion est passée par les deux étapes précédentes. La qualité de vos idées est la conséquence tout simplement de la qualité de vos connaissances et des principes d'innovation que vous aurez suivis. L'illumination, attention, est vraiment une phase brève. Il faut vraiment saisir les idées à l'instant où elles arrivent. Il faut aussi les accueillir avec bienveillance et leur faire de la place pour qu'elles grandissent. Ceci dit, attention, car l'illumination est comme un flash qui peut aussi vous aveugler dans un élan d'optimisme, voire d'euphorie. On ressent généralement beaucoup de plaisir à ce moment-là. C'est d'ailleurs une vraie joie qu'on a envie de partager et de communiquer. Pensez à savourer ces moments-là, mais dites-vous aussi qu'il faudra éprouver cette idée à la réalité du terrain. et préparez-vous aussi à faire l'ascenseur émotionnel entre des phases d'euphorie et de réalisme. Ce qui m'amène à l'ultime étape du processus, qui est celle de la vérification. Alors, ça correspond à quoi ? Eh bien, c'est le moment où vous élaborez votre idée, vous la transformez en solution, vous lui donnez corps en quelque sorte. C'est l'étape de la raison qui fait parler votre bon sens et votre jugement. Ensuite, au regard de votre problème de départ, eh bien, plusieurs issues sont possibles. Tout d'abord, certaines idées ne sont pas réalisables tout simplement et doivent être éliminées. Ensuite, d'autres mériteront de grandir un peu plus. Et enfin, certaines seront la solution à vos problèmes. Quand on parle de processus créatif, on parle transformation. Eh bien, dans le cadre de l'innovation, c'est ce qui vous permet de transformer un problème en solution. Dans le processus d'innovation, il existe en réalité deux mondes. Le monde du problème et le monde de la solution. Lorsque vous décidez de relever un challenge, le processus nous emmène de l'un à l'autre. Les deux sont interdépendants. Il faut connaître le monde du problème pour arriver au monde de la solution. On pourrait alors se poser deux questions. Comment s'assurer de bien connaître le monde du problème et comment arriver au monde de la solution lorsqu'on en a besoin? Lorsque vous vous fixez un challenge innovant, il est probable que vous n'ayez pas toutes les données du problème. C'est bien normal. Pour connaître le monde du problème et recueillir les attentes de l'utilisateur, il faut y consacrer du temps. Et je dirais, restez curieux et surtout humble. Vous devez lutter contre les idées toutes faites, car rappelez-vous que votre cerveau est fainéant et interprète les problèmes quand ça l'arrange. Pour comprendre le monde du problème et bien le cerner, vous devez généralement passer par trois phases successives. Tout d'abord, l'immersion, pour vous mettre dans le sujet. Puis, l'identification, pour identifier le problème. Et enfin, l'analyse, pour comprendre le problème et en faire le tour. Alors je vous rassure, ces trois phases, eh bien, nous les détaillerons dans le module 2 de la formation, qui est dédié à la compréhension du problème et du besoin. Pour connaître le monde de la solution, il vous faut explorer tout le champ du possible. Il ne suffit pas de trouver quelques idées au petit bonheur la chance en fonction de votre forme du moment. Non, c'est trop incertain. Il vous faut au contraire une méthode systématique pour générer des idées astucieuses quand vous en avez besoin. Il vous faut aussi une méthode pour sélectionner les idées qui ont le plus de chances de succès. Pour arriver à une solution, vous devez généralement passer par trois phases successives. Alors, tout d'abord, la génération d'idées, et plus il y en a de bonnes, mieux c'est. Puis la sélection, donc c'est le moment de choisir votre meilleure idée ou vos meilleures idées. Et enfin le test, après le prototypage, qui est le moment de concrétiser votre idée et de l'éprouver face à la réalité. Alors là aussi, je vous rassure, ces trois phases, eh bien, nous les détaillerons dans le module 3 et 4 qui sont dédiés à la création de votre produit et à son évaluation. Parlons maintenant du monde de la connaissance. En réalité, il existe plus de choses que vous ne connaissez pas que de choses que vous connaissez. D'ailleurs, une vie tout entière ne vous suffirait pas pour assimiler toute la connaissance disponible. On pourrait donc représenter le monde de la connaissance comme ça, avec d'un côté ce qui est connu et de l'autre ce qui est inconnu. Si on ajoute à cela le monde du problème et le monde de la solution, on représente en quelque sorte un schéma avec, vous voyez, quatre cadrans. Tout d'abord, le problème qui est connu. Donc face à un problème, vous vous dites « bon bah ça, clairement, ça m'est déjà arrivé, je connais ça très bien ». Ensuite, vous avez le cadran qui correspond à un nouveau problème. Donc ça peut être le cas d'un problème que vous n'avez jamais rencontré tout simplement dans votre activité, ou lorsque vous travaillez sur un nouveau projet dans un domaine que vous ne connaissez pas, ou plutôt mal, on va dire. Ensuite, il y a le cadran qui correspond à une solution évidente. Donc là, vous vous dites, pour ce type de problème, je connais la solution, ça me paraît clair, j'ai déjà rencontré ce problème et j'ai déjà apporté cette solution et ça fonctionne. Et ensuite, une solution non évidente. Donc là, franchement, vous sentez qu'il va falloir vraiment mettre, des neurones sur la table, eh bien, pour trouver tout simplement la solution. Et là, clairement, c'est pas si simple. Plusieurs chemins sont possibles en réalité en fonction de votre niveau d'expertise dans le domaine. Alors, le cas le plus simple, lorsqu'on fait du développement de produits, bon, clairement, on fait face à un problème connu et la solution vous paraît évidente, ça coule de source. C'est d'ailleurs ce qui définit un expert. Il connaît un grand nombre de problèmes et on connaît les solutions. Son expérience parle en sa faveur. Vous pouvez aussi faire face à un problème bien identifié et connu d'ailleurs, mais pour lequel la solution n'est pas évidente. Alors des problèmes comme ça, on en a plein en entreprise et on ne trouve pas toujours le temps de les traiter. Ce sont les problèmes cailloux dans la chaussure. Vous voyez, vous avez un caillou qui vous gêne, mais vous n'avez pas le temps de l'enlever et vous faites avec. Eh bien, dans les projets, c'est un peu pareil. Alors dans ce cas, eh bien, pour trouver une solution, vous devrez faire preuve de créativité. À l'inverse, un problème inconnu peut apparaître dans votre activité ou dans le nouveau domaine que vous explorez. Et après l'avoir identifié et analysé, il laisse apparaître une solution finalement évidente. Dans ce cas, c'est le temps que vous aurez consacré à la compréhension du problème qui vous aura permis finalement d'accéder à une solution évidente. Donc là, dans ce nouveau cas de figure, vous voyez, vous êtes face à un nouveau problème et la solution n'est pas évidente. Eh bien, la plupart des projets d'innovation sont dans ce cas-là. Vous devrez comprendre le nouveau problème et apporter une réponse nouvelle. Vous aurez compris que si les choses étaient si évidentes que ça, quelqu'un aurait forcément déjà trouvé la solution. Donc là, vous devrez investir du temps pour comprendre le monde du problème et investir du temps également dans la créativité pour trouver de nouvelles solutions. Alors pour clarifier tout ça, voyons ensemble comment ce processus se met en place. Le challenge est le point de départ, c'est votre objectif. Et de l'autre côté, il y a la solution à votre problème. Eh bien, le processus peut se représenter comme ça, avec d'une part un chemin direct ou au choix deux boucles qui vous emmènent dans l'exploration de territoires inconnus. Eh bien, à chaque embranchement, voyez, vous devrez vous poser la question à savoir si vous faites face à une situation connue ou non. Eh bien, dans le monde du problème, on retrouve les trois phases que nous avons vues précédemment, à savoir l'immersion, l'identification et l'analyse. Puis de l'autre côté, dans le monde de la solution, on retrouve aussi les trois phases que nous avons vues précédemment, à savoir la génération d'idées, la sélection et enfin le test. Alors parlons maintenant de la divergence et de la convergence. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien tout d'abord, il faut se remettre dans le contexte du monde connu dans lequel nous sommes, et qui a une forte capacité d'attraction. C'est le problème de la fixation que nous avons abordé dans le cours précédent. L'intérêt de ces deux boucles, c'est justement de se donner les moyens de s'extraire de cette attraction. Elles agissent comme le booster d'une fusée qui est là pour vous arracher de l'existant. C'est justement le principe de la divergence qui vous permet d'ouvrir votre réflexion, puis celle de la convergence pour faire des choix. C'est en réalité un processus qui vous permet de faire, on pourrait dire, un pas de côté et de voir les choses sous un autre angle. Vous retrouverez cette démarche dans le monde du problème, où la divergence correspond à l'immersion dans le sujet, puis la convergence correspondra à l'identification, puis à son analyse. Et c'est la même chose pour le monde de la solution, où la divergence correspond à la génération d'idées, puis la convergence correspondra à la sélection et au test. Vous voyez, c'est à chaque fois un cycle itératif où on diverge et on converge. Alors il est sûr que rester uniquement en terrain connu n'apporte rien si vous cherchez à innover. A contrario, être toujours en exploration sur des terrains inconnus et partir dans toutes les directions de manière débridée peut vous conduire sur des voies sans réel intérêt. En réalité, la solution, c'est faire les deux en permanence. Vous devez vous appuyer sur l'existant pour le faire évoluer ensuite vers des solutions avec des bonnes contraintes. Vous devez avoir en quelque sorte un pied dans le réel et un autre dans la créativité. Comme nous l'avons déjà vu, on part souvent de l'existant. Ça semble une contrainte, mais c'est en réalité un fait qu'il faut accepter. Souvenez-vous que 95% des inventions sont une évolution de produits existants et 99% des inventions sont tout simplement une nouvelle combinaison de choses existantes. Alors c'est une excellente nouvelle, car on sait que pour avancer, il faut s'appuyer sur quelque chose de connu. Explorer avec les bonnes contraintes permet en réalité d'arriver à des solutions réalistes et astucieuses. Alors pour passer du monde du problème au monde des solutions, vous pouvez vous inspirer aussi des passerelles qui existent autour de vous. Par exemple, les produits existants sont une représentation concrète d'une solution à un problème. On apprend toujours quelque chose d'intéressant à analyser sur un produit concurrent. Et une technologie qui résout un problème dans un domaine pourra peut-être s'appliquer au vôtre tout simplement. Les brevets d'invention sont aussi une vraie source d'inspiration. Alors, leur rédaction, il faut bien comprendre, elle commence toujours par une explication du problème, puis se poursuit toujours par une description de la solution. Donc vous voyez bien, on retrouve exactement la connexion entre le monde du problème et le monde de la solution. Alors vous voyez, c'est une mine d'or à ciel ouvert. Le problème est qu'il n'est pas toujours facile de lire de nombreux brevets. Heureusement, il existe des principes d'innovation qui relient ces deux mondes, et évidemment, ça nous simplifie bien la vie. Quel que soit le domaine, il existe des similitudes dans la résolution de problèmes. C'est-à-dire que des problèmes similaires, eh bien, sont résolus par des solutions similaires. Alors, pourquoi s'en priver ? Alors, faisons le point maintenant sur la créativité. On voit bien la nécessité d'utiliser une méthode pour être efficace en toutes circonstances et ne pas s'en remettre au hasard. Utiliser les bons outils pour comprendre le monde du problème et partir du bon pied, utiliser les bons principes d'innovation pour trouver plus facilement de bonnes solutions, et la méthode doit être flexible en fonction de son niveau d'expertise. Eh bien, c'est exactement ce que je vais vous apprendre dans les modules suivants. Alors maintenant, parlons du processus d'adoption. Car trouver une idée géniale ne suffit pas. Il faut qu'elle soit adoptée par les clients. C'est le sociologue américain Everett Rogers qui, en 1962, explique le premier les mécanismes de l'adoption d'une innovation. Il décrit ce processus, en réalité, en quatre étapes. Tout d'abord, la connaissance, puis la persuasion, ensuite la décision, et enfin la confirmation. Alors voyons ça plus en détail. Alors l'étape numéro 1, la connaissance. Eh bien, l'individu découvre à ce moment-là l'existence de l'innovation et réagit par rapport au contexte dans lequel il vit et par rapport à sa personnalité. Vous l'aurez compris, la clé est d'attirer l'attention, c'est d'ailleurs la base du marketing. Ensuite, votre offre doit être remarquable, votre produit est noyé dans une offre pléthorique. Du coup, il doit absolument se différencier des autres et apporter un plus pour être remarquable. Puis votre offre doit être mémorable, c'est vraiment la base de la publicité. Soit dit en passant, plus votre offre sera remarquable et mémorable, moins vous aurez besoin de publicité. Et enfin, pour que votre produit soit connu, vous devez utiliser le levier du marketing viral, donner envie d'en parler, c'est vraiment la clé. La deuxième étape est la persuasion. Donc là, vous devez mesurer l'avantage relatif en termes économiques et sociaux. Alors, cela revient à dire en quoi votre produit est supérieur aux autres. Alors, dites-vous que s'il existe un second choix plus attractif pour l'acheteur, il choisira évidemment l'autre option. Les besoins et les désirs peuvent être différents aussi entre plusieurs groupes d'individus. C'est pourquoi il est important de bien identifier vos clients potentiels. Il doit y avoir une cohérence entre le design et le marketing de votre offre. Ensuite, vous devez porter une attention à la complexité de l'innovation. La compréhension du bénéfice de votre produit et sa facilité d'accès sont essentielles pour ne pas rebuter un acheteur. Si par exemple vous êtes obligé de suivre une formation pour apprendre à utiliser un produit ou de voir lire une notice de 300 pages, eh bien vous voyez, tout ça, ça a tendance à effrayer le consommateur. Et enfin, la visibilité pour montrer les résultats aux autres est vraiment aussi un point important. Si vous voulez, le caractère observable et remarquable de votre produit est un élément capital pour un marketing viral. Par exemple, si vous voyez votre voisin de camping monter sa tente en 2 secondes alors que vous avez mis 10 minutes, eh bien vous serez persuadé de l'intérêt de ce produit. Dans l'étape numéro 3, on parle de la décision. Donc là, la possibilité de tester l'innovation est un élément clé dans l'adoption. Alors si le test ne peut pas avoir lieu, vous devez en réalité le compenser par plus d'informations pour que l'utilisateur comprenne l'expérience qu'il va vivre. Donc ça, c'est un point à intégrer dans la communication. Ensuite, la décision est clairement facilitée lorsque l'utilisateur est convaincu par le bénéfice du produit, ce que vraiment le produit va transformer dans sa vie. C'est pourquoi vous devez faire en quelque sorte une distinction entre la fonctionnalité de votre produit, l'avantage et le bénéfice qu'il apporte à l'utilisateur. Alors, prenons un exemple pour une voiture de sport, par exemple. Voyez, si vous parlez d'un moteur de 6 cylindres qui fournit 300 chevaux, donc là, la puissance sera la fonctionnalité, mais ce produit, cette voiture, vous permettra d'aller de 0 à 100 km/h en 3 secondes, donc ça, clairement, c'est un avantage. Et ensuite, eh bien, vous aurez les sensations d'un pilote de Formule 1, et ça, clairement, c'est le bénéfice. Et c'est vraiment sur le bénéfice que se fera la différence. c'est-à-dire ce que le produit va transformer dans la vie de l'utilisateur. Ensuite, l'étape numéro 4, donc là c'est la confirmation, et bien à ce moment-là, le prospect cherche à confirmer son choix par des informations complémentaires. Alors, il est clair que si plusieurs faisceaux convergent dans la même direction, eh bien la confirmation sera plus facile. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la preuve sociale. Vous vous souvenez, le fait de dicter son comportement par rapport à celui des autres. Et c'est aussi toute la force des tests de consommateurs et des notes qui sont publiées dans la presse, sur Internet, parce que on adore comparer les choses. Et on a besoin de ça pour confirmer nos choix. Alors si on se résume, pour que votre produit soit adopté, il faut plusieurs choses. Au moment du choix d'un concept d'innovation, suite par exemple à un cycle de créativité, eh bien vous devez être vigilant sur plusieurs points. Tout d'abord, votre produit doit être remarquable pour attirer l'attention et que le prospect s'en souvienne. Ensuite, donner envie d'en parler pour provoquer un marketing viral. Et enfin, promettre une expérience pour que l'utilisateur s'imagine avec le produit et soit plus enclin de l'adopter. Alors nous reverrons tous ces critères lors de la sélection d'une idée en phase de créativité. C'est à ce moment-là que ça intervient. Maintenant, voyons ensemble les flops et les tops dans l'innovation, car il est intéressant d'en comprendre les raisons et d'en tirer une expérience. Tout d'abord, faisons un point sur le lien entre l'innovation et le risque. Lorsqu'on propose un nouveau produit sur le marché, on ne peut jamais être sûr qu'il va réussir, mais on peut essayer d'éviter d'échouer. En réalité, le taux d'échec sur le lancement d'un nouveau produit reste toujours important. Alors, vous pouvez tabler sur 90% des innovations environ qui échouent dans le domaine des produits de grande consommation. Alors, c'est vraiment colossal. Par contre, l'avantage d'être le premier reste décisif et assure en général une part de marché élevée sur plusieurs années. Et le second entrant sur le marché ne peut espérer que 70% des ventes du premier. Donc c'est toujours intéressant de s'en souvenir. Alors, quelles sont les causes de l'échec? Eh bien, la première, c'est un positionnement qui est inadapté. En réalité, il n'y a pas de consommateur en face de la cible. C'est l'exemple du parfum proposé par Bic. Alors là, le positionnement pour la marque était mauvais, clairement. L'image de luxe et de la séduction liée au parfum ne va pas de pair avec les produits jetables. Alors Bic a innové sur énormément de produits, notamment donc des produits jetables, on connaît les stylos, les rasoirs, mais sur le parfum ça n'a pas marché. Donc ici le positionnement était mauvais. Mais il faut savoir que selon une étude de CB Insight, qui est un cabinet de veille stratégique, ils ont fait une enquête sur 100 startups qui ont échoué, et bien tenez-vous bien, 42% d'entre elles ont mis la clé sous la porte, justement pour cette raison. Ensuite, une autre cause d'échec, c'est le fait de ne pas avoir assez de moyens. Donc les ressources financières sont clairement le nerf de la guerre. Toujours dans la même enquête, on apprend que ça correspond à 29% des échecs tout de même. Et ensuite, un autre point qui correspond à une cause d'échec, c'est tout simplement un packaging qui est inadapté, mal conçu, trop volumineux. Enfin, clairement un packaging qui ne valorise pas le produit en quelque sorte. Alors une autre cause d'échec, c'est le problème de communication. Donc là, pour plusieurs raisons, soit la visibilité est insuffisante dans les médias, ou alors tout simplement la pub est mauvaise. Alors moi quand je pense à une mauvaise pub, je pense à la publicité qu'a fait Renault sur le lancement, pour le lancement de la Renault 14. Ils ont associé donc cette voiture à une poire, clairement c'était une mauvaise idée, car comme vous pouvez l'imaginer, la poire n'est pas très valorisante pour un produit qui reste par excellence un produit qui cherche plutôt à traduire le statut social, à valoriser la personne. Alors ensuite, une autre cause d'échec, c'est le MeToo. Alors c'est en gros, vous essayez de faire comme un concurrent, mais bon, clairement, comme il n'y a pas de place pour deux, vous risquez de vous planter. Ou alors il y a le faux MeToo. Alors vous essayez de faire comme le concurrent, puis en plus vous vous trompez. Donc là, c'est la double sentence. Donc il y a d'autres causes d'échec, comme par exemple un produit trop cher, où le client juge qu'il n'en a pas pour son argent tout simplement. Or c'est le cas de l'Arche de Luxe, un produit qui était haut de gamme, proposé et lancé par McDonald's. Donc là clairement, c'était un mauvais positionnement pris pour l'enseigne. Ils avaient essayé de proposer un produit qui était pour eux innovant, avec un produit plutôt avec des produits de très très bonne qualité. Et clairement, le produit n'a pas trouvé son public. Alors à l'inverse, vous voyez la voiture Nano de la marque indienne, Tata, qui coûtait très peu cher, Or l'équivalent, je crois, de 1500 euros à l'époque, eh bien, si peu cher qu'elle était considérée comme la voiture du pauvre. Et donc là, pareil, vous voyez, l'image ne collait pas finalement à ce qu'attendaient les gens. Alors ensuite, une autre cause d'échec, bah, ça peut être tout simplement une copie d'un concept étranger, donc c'est quelque chose qui se fait beaucoup, notamment sur des pays en avance, eh bien on peut s'inspirer de ce qui se fait chez eux, donc notamment aux États-Unis par exemple, mais cela ne fonctionne pas toujours, ça dépend clairement de votre contexte culturel. Alors un autre cas d'échec, eh bien ça peut être l'accident. Alors imaginez, vous lancez un produit et suite à ce lancement, eh bien quelqu'un a un accident, se blesse, voire éventuellement décède. Bon bah là clairement vous mettez fin au produit. Ou alors ça peut être aussi un défaut majeur, ou alors un test comparateur négatif qui fait que votre produit part déjà d'entrée avec une balle dans le pied. Donc tout ça, vous voyez, ce sont des causes d'échec. Alors il y en a d'autres, comme par exemple un produit inadapté aux besoins des clients. Alors là, c'est le cas où vous offrez des prestations qui sont non cohérentes par rapport aux attentes du client. Alors une autre cause d'échec, eh bien c'est la fausse bonne idée. Donc là, vous voyez par exemple le tomato ketchup vert. Eh bien pour les clients, clairement, la tomate c'est rouge, donc le ketchup ça doit être rouge. Eh bien quand Heinz a lancé ce produit-là, ça a été un flop terrible. Alors, vous avez par exemple aussi le cas du design raté. Alors, c'est le cas de la Fiat Multipla, qui était un produit plutôt multifonctionnel, intéressant au niveau de l'habitabilité, mais qui n'a pas du tout été apprécié pour son design, qui était trop décalé. Alors maintenant, parlons des réussites. Comme je vous le disais précédemment, il est difficile de garantir une réussite, mais on peut mettre en place des choses pour éviter l'échec. Alors pour ça, il y a trois choses à faire. La première, c'est d'avoir une bonne connaissance des produits existants et en connaître leur usage et leurs limites. La deuxième chose importante, voire même capitale, c'est être à l'écoute du client, vraiment par tous les moyens. Et enfin, le dernier point, eh bien, c'est de tester, tester et tester encore votre produit auprès de vos clients. Plus vous ferez de tests, plus vous aurez la conviction, eh bien, d'être sur le bon chemin et de correspondre réellement aux besoins de vos clients. Alors pour illustrer des produits qui ont réussi, prenons l'exemple de la Renault Espace qui a été lancée en 1984. Eh bien c'était tout simplement le premier monospace qui était largement vitré et adapté au voyage pour accueillir une famille complète. Il répondait clairement à un besoin d'évasion en famille à ce moment-là et ça a été repris eh bien par toutes les autres marques. On peut dire que Renault était précurseur dans le domaine. Alors un autre exemple qui pour moi illustre bien une des réussites dans le vélo, c'est le vélo Bitwin qui a été lancé en 1999 par Decathlon. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien il s'agit d'un vélo hybride, on va dire, entre un usage ville et un usage VTT. Donc quelques années avant, donc une dizaine d'années avant, le VTT avait été inventé, il existait le vélo de ville. Eh bien là, si vous voulez, ce produit répondait à un besoin multi-usage, où de nombreux clients eh bien, voulaient acheter un vélo qui finalement répondait à deux usages différents. Alors ensuite, un autre exemple, celui de la tente de seconde, qui a été lancée en 2005 par Decathlon. Alors il s'agit de la première tente autodéployante qui était adaptée à l'usage de la randonnée. Alors on peut dire que le produit a vraiment révolutionné le monde de la randonnée en répondant tout simplement à la plus grosse insatisfaction d'un randonneur au sujet de sa tente, qui est le temps qu'il met à monter sa tente. Et ensuite, là, vous voyez l'exemple de la pédale de vélo automatique qui était inventée par Look. Eh bien, il s'agissait pour Look d'aller conquérir de nouveaux clients, mais pour une marque qui était axée essentiellement sur les fixations de ski avec un marché très axé sur l'hiver. Donc, il souhaitait se développer sur la partie été de l'activité. Eh bien, ces pédales répondaient à un besoin de performance et de confort pour des cyclistes sur route. Donc là, vous voyez, là encore, on répond à un besoin. Eh bien, ce qu'on peut dire concernant ces quatre produits, c'est qu'ils ont été des succès et précurseurs eh bien, d'une longue lignée de produits par la suite. Et leur succès tient avant tout au fait qu'ils correspondaient à un besoin non satisfait à l'époque. Alors maintenant, abordons un sujet qu'il faut évidemment prendre en compte, c'est l'évolution des coûts d'un projet. Il faut bien comprendre l'importance des premières décisions. Alors c'est ce qui est illustré sur le diagramme qui représente en vert la réduction des coûts par rapport à l'évolution du projet et en bleu le coût des modifications toujours par rapport à l'évolution du projet. Alors vous voyez que durant les premières phases, eh bien les possibilités sont les plus importantes pour réduire le coût total du produit. Et le coût d'étude des solutions alternatives et des modifications sont les plus faibles. Par la suite, on voit aussi que les coûts des modifications augmentent très vite au moment de l'industrialisation. Alors tout simplement parce que les outillages sont en cours de réalisation ou sont réalisés. Alors on peut donc dire que le top donné pour la réalisation des outillages, ou le fameux top RO, eh bien doit être toujours bien réfléchi. Un autre aspect des coûts concerne le temps de conception. Prendre du temps pour les premières phases augmente les dépenses au départ, évidemment. Mais cela permet par la suite de diminuer le délai de mise sur le marché. C'est ce qu'a montré une étude très sérieuse menée par l'US Air Force auprès de ses fournisseurs. Donc ils ont montré finalement qu'en augmentant le temps de recherche de concept, qui finalement est la somme de la compréhension du problème, de la créativité, du prototypage, du test, enfin bon, de toute cette phase d'idéation, eh bien, plus vous prenez du temps là-dessus, eh bien, moins vous passerez de temps sur la première conception et moins vous modifierez la conception en cours de route. Et donc, du coup, la diffusion des données sera beaucoup plus rapide. Et au total, ils ont estimé que tout ça pouvait réduire le délai de 40%. Donc, c'est assez important. Et vous imaginez bien donc des réductions potentielles de coûts à la clé. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il faut faire les choses dans l'ordre et ne pas se jeter aveuglément dans la conception dès la première idée venue. Alors pour innover rapidement, nous l'avons vu, il faut faire des tests et encore des tests. C'est ce que propose la méthode du Lean Startup. Alors là, vous voyez, l'idée, c'est de tester au plus tôt votre offre auprès de vos clients pour voir s'il y a un marché et de corriger le tir si besoin avant d'investir dans son développement et sa production. Donc l'esprit Lean Startup est intéressant pour démarrer une activité, d'autant plus lorsqu'il existe une part d'incertitude importante, comme une innovation de rupture par exemple. Alors il faut bien comprendre que cela, en quelque sorte, ça revient à vendre un produit avant de l'avoir complètement développé. Alors je comprends que ça puisse être perturbant, mais c'est vraiment très très intéressant comme démarche, et ça fonctionne très bien. Alors on retrouve ça dans les systèmes de financement participatif, où finalement eh bien des startups lancent un produit, ouvrent des précommandes avant même d'avoir lancé leur production. Alors à vrai dire, pour une innovation, le client n'est pas forcément demandeur, surtout s'il n'a jamais vu de produit équivalent. C'est la raison pour laquelle le point de départ doit être votre intuition, que vous devrez ensuite confronter à la réalité avec un premier prototype. Alors, si on se résume, la séquence qui illustre le Lean Startup, ça se traduit d'ailleurs de l'anglais de la manière suivante. Prêt, tirer, viser. Alors, ça s'apparente clairement à un apprentissage volontaire par l'action. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que vous devez vous lancer dans l'action avec les moyens du bord en surmontant vos peurs. Donc, vous êtes prêt et vous tirez. Et ensuite, vous devez regarder les résultats et corriger le tir pour votre prochain essai. Donc là, vous visez. Alors maintenant, abordons ensemble un aspect qui est important dans l'innovation, qui est la propriété industrielle. Alors les enjeux sont importants et il est fondamental eh bien, d'en prendre conscience tout simplement. Alors quels sont ces enjeux? Eh bien tout d'abord, connaître l'état de la technique, parce qu'avec 100 millions de brevets disponibles dans les bases brevets, eh bien ça représente une bonne part de l'information technique disponible dans le monde. Et il faut savoir que 70% de cette information n'est jamais divulguée ailleurs. Ensuite, eh bien, vérifiez que votre solution, celle que vous avez imaginée, eh bien, n'existe pas déjà. Parce que le propre d'une innovation, c'est quand même de proposer des produits qui soient nouveaux, et il est quand même intéressant de vous en assurer. Cela permet aussi de mesurer la liberté d'exploitation, histoire de ne pas vous faire attaquer si vous partez dans une voie et qu'un autre brevet existe. Vous voyez que ça peut créer quelque part des litiges, voire même l'arrêt de votre projet. Et enfin, le dernier point, c'est de protéger votre invention pour l'exploiter plus sereinement. Alors, tenant compte de ces enjeux, vous devez vous poser des questions par rapport à la propriété industrielle tout au long de votre projet. Alors, on peut ainsi identifier plusieurs grandes phases à prendre en compte. Alors, tout d'abord, la veille brevet. Alors, la question que vous vous posez, c'est quelle techno développe vos concurrents ? Eh bien, c'est quelque chose que vous devez faire tout le temps en réalité. Vous devez vous intéresser à vos concurrents, histoire de ne pas être en retard par rapport à une nouvelle technologie émergente, et plus vous le saurez tôt, plus vous pourrez réagir. Donc c'est une démarche que vous pouvez réaliser une fois par mois, c'est largement suffisant. Puis vous avez la recherche d'antériorité. Donc là, la question à se poser, c'est est-ce qu'il existe des antériorités aux produits que vous allez développer? Donc il est intéressant toujours de savoir où vous mettez les pieds. Eh bien, vous pouvez par exemple lancer cette recherche d'antériorité au début d'un projet pour connaître l'état de la technique. Eh bien, ça vous évitera par exemple de réinventer le fil à couper le beurre, de reproduire des idées existantes, voire peut-être de vous inspirer également de solutions techniques auxquelles vous n'avez pas forcément pensé et qui vous ouvrent quelque part de nouvelles voies de réflexion. Ensuite, vous avez la liberté d'exploitation. Donc là, la question, c'est est-ce que vous pouvez exploiter votre création? Donc là, vous avez créé quelque chose et vous voulez savoir si vous avez le droit de l'utiliser. Eh bien, vous pouvez vous intéresser à ça au moment de la sélection d'une solution technique. Eh bien, cette recherche vous évitera tout simplement de vous lancer dans une solution technique qui existe et qui n'est pas libre de droit. Et enfin, préparer la demande de brevet. La question, c'est est-ce que vous pouvez breveter votre création? Eh bien, c'est une question qui est importante à se poser avant de communiquer votre projet à l'extérieur. Donc, c'est le moment de le faire. Alors, je vous rassure, hein, nous verrons lors de la formation un cours pour faciliter vos recherches de brevets sur la plateforme EspaceNet. Vous verrez, je vous donnerai toutes les clés et la méthode rapide pour accéder à ces bases de données. Eh bien, maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, ce deuxième cours a pour objectif de vous permettre de visualiser votre parcours d'innovateur. Donc vous avez vu toutes les étapes que nous allons suivre pendant cette formation pour vous permettre de créer un produit qui réponde aux besoins du marché. Alors justement, pour vous permettre de tester l'acquisition de ces bases, eh bien je vous propose encore une fois un petit quiz pour savoir où vous en êtes. Donc pour ça c'est tout simple, vous cliquez sur le lien juste au-dessous de cette vidéo. Et bien voilà, c'est la fin de ce cours, donc il me reste à vous souhaiter bon exercice et vous dire à très vite pour la prochaine vidéo.